Bonsoir à toutes et à tous, on est ravis de vous retrouver pour cette dernière émission de la semaine. Par les temps qui courent, c'est chaque soir un entretien d'une heure avec les artistes dans l'actualité culturelle, ce soir avec Camélia Jordana.
Un tango, une danse, un baiser.
C'est du pépé.
Par les temps qui courent.
Ça y est, plus facilement.
Marie Richeux.
Et c'est que le moment dans ce moment de présent.
Et que c'est en faisant qu'on devient un faiseron.
Jusqu'à ce que le corps entier commence à devenir lui aussi visage.
Il y a plusieurs façons, plusieurs raisons de ne pas choisir. Ne pas choisir de nom ou en changer, ne pas choisir de langue, les multiplier, ne pas choisir de voix, les additionner. Il y a plusieurs raisons de vouloir fuir les assignations et chercher la paix au milieu du bruit de la ville, bâtir un empire sans empereur et marcher à plein d'amis en chantant sur les quais du dernier train. Dans votre dernier disque, Camélia Jordana, la perte est d'une inestimable valeur, peut-être parce qu'elle offre le temps et la surprise de se trouver absolument au bon endroit dans le labyrinthe. Si les rythmes appellent les chants les plus anciens, la production et la métrique poétique de certains textes nous propulsent dans l'ultra-présent. Il sort le 9 novembre chez Arista. Il est si beau. Bonsoir et
bonsoir,
bienvenue.
Bonsoir, merci.
Et on va commencer par le labyrinthe.
Il y a toujours un cauchemar qui se répète. C'est le cauchemar du labyrinthe. Cela peut prendre mille formes. Par exemple, je suis dans une chambre quelconque. Disons dans cette chambre. Alors, je me sens vaguement incommode, je vais sortir, et la chambre d'à côté, c'est la même chambre répétée. Alors je sais que c'est le rêve du labyrinthe et que je continuerai jusqu'à l'infini. Si nous étions sûrs que le monde était un labyrinthe, c'est-à-dire qu'il y a un ordre secret, cela serait une grande chose pour nous. Cela serait très important. On n'est pas sûr que ce soit un labyrinthe. Le labyrinthe serait un cosmos caché. Tandis que peut-être le monde n'est que le chaos, non, que le désordre. Parce que dans un labyrinthe, il y a un centre, il y a un plan, tout cela a été prévu, et nous ne savons pas si l'univers a été prévu. C'est-à-dire, nous ne savons pas si nous sommes dans un labyrinthe. Cela serait déjà quelque chose qu'il faut savoir. Nous ne savons même pas s'il y a une structure à l'univers. C'est assez hasardé de le supposer. Peut-être nous sommes plus perdus dans la réalité que dans un labyrinthe.
Et on commence avec à la fois la voix de Borges et un tout petit peu de la vôtre. Camélia Jordana, c'est un petit bout d'un morceau qu'on entendra en entier tout à l'heure, mais parce qu'il nous indique ce mot-là, le lost, la perte et le labyrinthe. Borges, même dans cette archive, est labyrinthique. Ça me paraît très important, cette image-là, presque celle de votre sac à main. Est-ce qu'elle préside à beaucoup de choses dans ce travail, dans ce nouveau projet, cette image de labyrinthe?
Complètement, elle a été essentielle. La genèse de ce projet réside dans ce sentiment total, envahissant et dans lequel je me suis étouffée, dans lequel j'ai trouvé aussi mon air, ce sentiment de perte totale, de repère, d'appui, de puissance, de pouvoir, de parole et de lumière. Et en fait, je l'ai retrouvé aussi dans l'expression de cette perte-là, justement.
Quand vous dessinez pour la première fois, vous ou quelqu'un d'autre, je ne sais pas, ce labyrinthe qui devient une sorte de drapeau ou le tatouage de cet album-là, c'était quand et combien de temps s'est écoulé après? Parce que moi, j'ai l'impression de l'avoir attendu.
Ah, ben ça me fait plaisir.
Non, mais c'est vrai.
Il y a 3-4 ans, j'ai eu la chance de faire de la musique avec Laurent Barden, qui est le leader du groupe Ponyox et qui est un immense saxophoniste, un de mes préférés d'ailleurs, que j'embrasse au passage. Et comme deux copains, on s'est dit, bon bah écoute, ça fait plusieurs années qu'on se tourne autour, faisons de la musique ensemble. Et ça a donné vie à quelques chansons comme ça, qu'on aimait beaucoup finalement. sans projet de projet. Et puis petit à petit, on s'est dit, mais pourquoi pas les partager finalement. Et à la base, il s'agissait de composition de Laurent avec des textes de Nicolas, le chanteur du groupe Onyx. Et puis très vite, moi, je les ai fait écouter à mon ami et depuis chef de label Vincent Boivin qui est un peu tombé amoureux des chansons et qui nous a dit mais c'est exactement ce que j'ai envie de raconter moi comme musique, en tout cas ce mélange. Et puis est venu du coup très vite a grandi en moi ce désir que de d'écrire, parce que c'est vrai que faire uniquement la chanteuse c'était une chose qui me séduisait moins depuis quelques années à ce moment-là. Et alors j'ai pris la plume, je me suis mise à écrire en anglais et très vite on s'est rendu compte avec Laurent que j'avais envie d'écrire, qu'on avait tous les deux très envie d'écrire et de parler de ce sentiment-là, justement, de perte qu'on évoquait juste avant. C'était en 2014-2015, donc autour de toute cette période très très sombre qu'on a connue, qui voit un petit peu la lumière petit à petit comme ça. Et puis très vite, on a fait ce projet Lost avec Laurent. On a sorti un EP sous ce nom-là. C'est peut-être du coup la raison pour laquelle vous avez senti moi un petit peu de l'avoir attendu cet album. Et puis avec Laurent, on s'est dit que on avait tous les deux très envie que cette musique prenne racine en les miennes, je crois, à savoir que mon ADN musical et que mon ADN tout court d'ailleurs viennent imprimer cette identité musicale, et que donc il y ait comme une espèce de création, de mélange de ce que je suis, et que du coup ce soit quelque chose qui se ressente aussi artistiquement, et donc que les influences aillent du hip-hop à la soul, au R&B, au gospel, à la musique trad africaine, d'Afrique noire, d'Afrique du Nord, de Mauritanie, voilà, un mélange de plein de choses, et qui était en effet peut-être plus mon ADN musical à moi. Donc j'ai récupéré le bébé, puis j'ai écrit de nouvelles chansons, j'ai composé de nouvelles chansons, et ça a donné cet objet-là.
Est-ce qu'on peut revenir un peu sur ce sentiment de perte, puisque vous dites qu'il est fondamental? Et en effet, moi, dans l'introduction, je disais qu'elle me semblait avoir une valeur inestimable, cette perte, parce que elle a toutes les couleurs dans ce disque-là. Elle a vraiment l'étourdissement très négatif de la perte de soi, de la perte de repère, et puis aussi l'étourdissement très positif de la transe, de l'amitié, de la joie, du chant qu'on fait pour soi et qui se communique petit à petit. Est-ce que ça fait partie des différentes couleurs qu'elle a eues pour vous? La perte.
Complètement. C'était un sentiment très sombre et trop complexe pour moi à digérer. C'était très compliqué pour moi de vivre avec.
Si on est concret, c'est quoi? C'est la violence, par exemple, qui touche Saint-Denis et Paris en 2015. C'est une forme de durcissement.
Oui, par exemple, c'est aussi par la suite des élections présidentielles chaotiques, le passage de Trump au pouvoir, la crise que je déteste appeler migratoire, mais qui se fait appeler comme ça aujourd'hui, ces espèces de guerres dont l'Occident est clairement responsable et dont il n'assume aucunement les responsabilités, le fait que le peuple se doive par besoin, je crois, d'humanité et d'humanisme, d'endosser les responsabilités qu'un gouvernement renie. Et je pense que ça a commencé pour moi avec ce voyage, je vais dire, que j'ai fait à Calais. Où justement, voilà, c'est un peu à l'image de cet album, dans la mesure où j'ai non pas mon voyage à Calais, quoique dans certaines bribes peut-être, mais je veux dire ce sentiment de manque de puissance, ce sentiment d'impuissance, de pouvoir, de parole et de trop plein et de refus d'accepter ce qu'on me donnait en fait de ce monde. Je refusais de voir tous ces gens en bas de chez moi et en même temps de voir qu'on me racontait que ces réfugiés qu'on appelle migrants, comme si c'était leur décision d'aller voir un peu les couleurs d'ailleurs, mourir sur notre sol, être maltraité par des gens qui étaient payés par mes impôts. Enfin voilà, il y avait une espèce de mélange comme ça, un peu dégueu, et je me disais mais non, en fait, faut que j'aille le voir de mes yeux parce que je refuse de. Pour moi, c'était un peu trop courber les chines que de me contenter d'accepter, de croire à ces informations qu'on me donnait sans les voir de mes yeux. Je refusais d'être à cet endroit-là du témoignage. Et c'est pour ça que j'ai eu besoin de témoigner dans cet album, finalement. J'ai décidé d'aller à Calais, et de la même façon, j'ai décidé de prendre note et de témoigner de ce que moi et de ce que la silhouette sociale que je peux incarner a vécu au cours de ces 3/4 dernières années à Paris, à savoir une jeune femme entre 23 et 26 ans, française, arabe, avec une gueule d'arabe, d'origine algérienne, à Paris en 2018. Qu'est-ce qu'on a raconté de cet angle-là ?
Et est-ce que dans cette prise de note du réel, vous avez recouvré la puissance qui semblait vous manquer au tout début ?
Je pense que j'ai pensé déjà, P-A-N, dans un premier temps, en écrivant ces chansons et en les nourrissant de toutes ces influences, en m'autorisant à chanter et en français, et en anglais, et en arabe, en disant... Et aux personnes au pouvoir, et aux gens susceptibles de l'écouter, et aux personnes qui tomberont dessus par hasard, que l'arabe a clairement sa place en France, que la question, ça m'a amusé quand j'ai appris que des gens avaient été complètement outrés à l'idée que l'arabe soit appris dans les écoles en France, étant donné que l'arabe est clairement une langue populaire dans notre pays, et c'est une langue que la France est allée chercher il y a déjà des décennies, voire plus d'ailleurs.
Et que par ailleurs, si on est très pragmatique, ça fait des dizaines d'années que des travaux montrent que apprendre différentes langues encourage à toutes sortes d'ouvertures, y compris vers la langue française.
Bien sûr, et d'autant que, enfin, par exemple, ça m'a fait beaucoup rire. Je veux dire, quand Emmanuel Macron est passé au pouvoir, il y a quand même des t-shirts qui ont été faits avec sa photo, avec marqué Psartek en dessous, avec un orthographe catastrophique.
Qui mais peut vouloir dire une sorte de félicitation, quoi.
Exactement, Psartek et pas Psartek, comme c'était écrit, même si on salue l'effort. C'est une espèce de félicitation pour les nouvelles choses qui arrivent. C'est mettre des bonnes ondes sur quelque chose de bon et de nouveau. Enfin, quoi qu'il en soit, moi, dans ma génération, que ce soit les 18-28, on va dire, et peut-être au-dessus aussi d'ailleurs, mais en tout cas j'ai l'impression que particulièrement dans ma génération, on est un peu les... Je sais que dans nos bandes de copains, il est complètement établi qu'on parle français, anglais, arabe ou wolof.
Et que ça va pour vous.
Et que ça se passe vachement bien en fait. Et que c'est hyper ludique en plus. Ça fait des choses magnifiques.
Je crois que c'est une des conditions actuelles, par exemple de l'écrivain, je le dis souvent, j'écris en présence de toutes les langues du monde, même si je n'en connais aucune. Et elles sont là, elles peuplent mon imaginaire, elles forment ma sensibilité, même si je ne les connais pas, n'est-ce pas ? Et je me souviens d'expériences dans ce sens, par exemple, des récitals de poésie avec 15 poètes parlant des langues différentes et sans traduction. Et l'assistance est complètement pétrifiée par une sorte de sens sacré de la diversité des langues qui fait qu'on entend un poète en arabe, en langue arabe, un poète en langue hébreu, un poète en polonais, en espagnol, en japonais, etc. Et que tout le monde est absolument transformé par ça, on n'a pas besoin de traduction.
Paris 2017, j'ai dans la gorge comme un arrière-goût des années 90 dans le 83. Don't give a fuck, I'm afraid. Du jour au lendemain, je prends la route. Je vais laisser les galères là-bas. On a mangé ma tarte et moi, tu sais pas. De l'ampleur, pas d'empereur, même si l'empire est là. J'ose à dire trop beau, pied noir et renoir.
We don't give a fuck and we pray every day. Ici j'ai tout fait, je sens plus mes doigts. Pourquoi la France est venue me chercher mais ne veut pas de moi? We don't give a fuck and we pray every day.
C'est le morceau Empire qui est tiré de votre album Camélia Jordana, nouveau disque à paraître le 9 novembre. Et je me dis, plus on écoute ce disque et plus on a la possibilité d'en recevoir les strates différentes. Par exemple, moi, j'avais pas entendu basse batterie à la toute fin de ce morceau qui emmène sur un territoire beaucoup plus fun que le tout début. Oui. Juste avant, on entendait l'archive de d'Edouard Glissant qui témoigne du fait qu'il a toujours écrit avec toutes les langues, y compris les langues qu'il ne maîtrisait pas. Et là, on entend dans ce morceau un au moins trois langues. Si on pense aux langues musicales, il y en a encore plus. Ça veut dire que vous vous êtes senti augmenté à faire ce disque-là?
Je me suis sentie plus riche en m'autorisant les choses, en fait. Quand je chante en français, j'ai tendance à être dans un registre beaucoup plus délicat. Je vais devoir peser l'intention. Je sais que d'une syllabe à l'autre, ce qui va être important, ce sera plutôt le souffle, et puis sur une dernière syllabe, faire durer pour faire arriver le vibrato à partir de tant de temps dans cette note-là, puis prendre le souffle à ce moment-là plutôt que juste avant de rechanter, etc. C'est ma cuisine que je me suis fabriquée et racontée et tout ça. En anglais, je peux me permettre d'être beaucoup plus large, beaucoup plus grand, beaucoup plus ouvert, beaucoup plus...
Puissante aussi.
Puissante, exactement, et plus large. Enfin, voilà, il y a quelque chose de plus soutenu. Par exemple, un truc tout bête, je peux me permettre de faire des vibes en anglais. Si en français, je fais des vibes, très vite, ça sonne un peu...
R&B des années 90, pourquoi pas?
Ah ben, R&B des années 90, que j'adore. Mais en tout cas, moi, quand je le fais, c'est assez rigolo. Et j'ai pas très envie de faire de la musique rigolote pour l'instant. et sinon, en tout cas, en arabe, par exemple, il y a quelque chose de fait. Par exemple, l'outro de cette chanson-là, pour des raisons de streaming, de découpage, de minutage, de machin, que j'ai dû mettre sur la piste d'après, mais que du coup, j'ai décidé de nommer Inch'Allah, qui est en fait le refrain d'Empire qu'on vient d'entendre, mais a cappella, presque comme une prière. Moi, je suis agnostique, mais je dis Inch'Allah dans la vie.
Et d'ailleurs, dans ce morceau, vous dites « les jours passent et on prie ».
Exactement. Et l'idée étant qu'on prie à notre façon. Néanmoins, l'arabe, dans la langue arabe, il y a des choses qu'on ne peut pas traduire littéralement en français autrement qu'en nommant Dieu. parce que Dieu fait partie de cette langue. Ce que je trouve magnifique, par ailleurs.
Mais ce qui vous encombre pas en tant que non-croyante?
Pas du tout, parce qu'il y a quelque chose... Moi, je suis agnostique, je crois en une force supérieure, je fais mes prières, j'allume mes bougies, j'invoque mes esprits et je me sens accompagnée de mes ancêtres et je me sens portée, soutenue par eux et j'ai ma tribu avec moi toujours. Mais ça fait que non, au contraire, ça me permet, en passant par une autre porte, d'invoquer ce que j'ai envie d'invoquer. En revanche, ça fait que l'arabe, il y a tout de suite quelque chose de plus mystique, de plus centré, de presque ésotérique, en fait.
Y compris dans la, par exemple, dans la voix qui est la vôtre quand vous le chantez.
Complètement, exactement. Donc la façon que j'aurai de chanter en arabe sera forcément quelque chose de plus centré, de plus profond. Ce sera une voix qui invoquera, je crois.
Et je disais en introduction qu'il y a vraiment une manière de pas choisir dans ce disque-là, mais pas du tout d'être du côté de l'hésitation, mais de s'asseoir et de dire « je vais pas choisir », et c'est d'ailleurs le titre qui ouvre l'album, et qui dit aussi « toutes ces voix sont en moi, il y en a peut-être plus, et pourquoi pas ne pas toutes les donner en même temps », ce qui donne aussi des morceaux épais, des morceaux très vastes dans l'espace qu'ils occupent, comme si c'était aussi un souffle que vous vouliez transmettre et qu'il soit pas petit. Ça ne veut pas dire qu'un piano-voix, c'est plus petit qu'autre chose, mais ça veut dire qu'il y a une sorte d'espace dans ce disque-là. Est-ce que c'est comme ça que vous l'avez travaillé ?
Chouette, ça fait très plaisir à entendre, en tout cas. Merci. Un petit peu, c'est-à-dire que j'ai en effet travaillé beaucoup sur cet album et j'ai mis pas mal de temps à le finir et à entendre exactement ce que j'entendais dans ma tête à partir du moment où on s'est dit ok, on fait ces chansons, et qu'avec Laurent on s'est dit ok, je récupère le bébé et j'en fais mon histoire avec toutes ces influences et toute cette richesse là, et j'avais besoin de la raconter, comme on disait par exemple tout à l'heure par rapport à l'arabe, à la fois par rapport à mon identité à moi, à la femme que je suis, avec mon histoire, avec mes origines, pas uniquement dans mon ADN, mais tout ce qui m'a nourrie en fait depuis petite jusqu'à aujourd'hui, que ce soit humainement, artistiquement, professionnellement, amicalement, tout ce qui a fait de moi la femme que je suis aujourd'hui, la personne que je suis aujourd'hui. J'avais envie que toute cette richesse-là ait sa place. De moi à moi, c'était une chose que je me devais et que j'avais envie de m'accorder, parce que sans ça, je me savais frustrée et j'avais envie de finir ça une bonne fois pour toutes. Et aussi, j'avais envie que le potentiel public de ce projet-là, de cet album-là, entende et voit que ce soit... peu importe en fait l'âge, la couleur de peau, l'orientation sexuelle, l'origine, les envies, les parcours, les destins, les traversées, les métiers, peu importe. J'avais envie de porter ce message de richesse, simplement. Que à partir du moment où on est nourri, on n'est pas obligé de faire ce choix-là. De la même façon que pour l'arabe, alors oui, au début le projet était en anglais par exemple. Et puis je me suis dit non, c'est un témoignage de française que j'ai envie de raconter à mon pays, mais je prie aussi, j'espère, pour que ce projet s'exporte et que ce témoignage de jeune femme française à Paris en 2018 puisse être raconté à des gens ailleurs qui ne soient pas forcément français. Donc ça faisait sens qu'il y ait du français, ça faisait sens qu'il y ait de l'anglais, et puis en fait je me suis dit mais... Même artistiquement, finalement, musicalement, c'est très influencé, comme on disait, par la musique trad mauritanienne, algérienne. Il y a de la soul, il y a plein de choses. En fait, ça fait vachement sens qu'il y ait une langue africaine, qu'il y ait une langue qui vienne d'Afrique, qui ne soit pas latine, qui soit dans cet album. Je me suis dit, bon, bah, de fait, ce sera l'arabe, qui est une langue que j'ai dans l'oreille depuis petite et que j'adore chanter en plus de ça. Et puis aussi, je me suis dit, mais en fait, qui chante en arabe en France aujourd'hui ? On a Rachida, paix à son âme, qui nous a quittés récemment, qui chantait en arabe. Mais moi, je n'entends jamais d'arabe à la radio, sauf si j'écoute Beur FM, qui s'appelle Beur FM, quand même. Mais sinon, j'entends pas ça, et je trouve ça tellement chouette de me dire que, ben, Si ça se trouve, il y a des gamines aujourd'hui qui vont allumer leur radio ou qui vont allumer leur télé, qui vont voir un clip ou entendre à la radio une chanson avec de l'arabe et qui vont se dire, mais oh, un peu comme on se disait que n'importe quelle gamine pas blanche de peau n'a jamais vu une Barbie de la même couleur de peau que la sienne, peut-être qu'aujourd'hui, une gamine ou un gamin pourra entendre de l'arabe depuis petit dans quelque chose de public dont on n'a pas les codes, on ne sait pas comment ça se passe dans des studios avec des micros ou derrière la télé avec des caméras et des équipes autour et un public et des gens qui ont des rendez-vous et c'est des enregistrements et tout ça, tout cet endroit, c'est toutes ces boîtes magiques et ces angles noirs et morts que le public et l'audience n'a pas. Je me dis que si aujourd'hui ça peut permettre à des gens de se dire mais en fait
On existe ailleurs aussi,
on a le droit. De la même façon que Section d'Assaut l'a fait il y a une dizaine d'années et que depuis, c'est super à la mode et du coup, tout le monde signe du hip-hop et des artistes noirs, par exemple, depuis 5 ans maintenant. Moi, je me dis, pourquoi pas. Finalement, ce serait chouette et peut-être que du coup, un jour, il y aura de l'arabe enseigné à l'école.
Cet empire dont il est question dans le disque et dans ce morceau-là, et qui est un empire sans empereur, je disais tout à l'heure, j'ai vraiment aussi l'impression que c'est un empire d'amitié. Pour vous, c'est un empire de quoi ?
C'est exactement ça. C'est un empire, moi j'appellerais ça un empire de bons gâteaux.
De bons gâteaux ?
Oui.
Une pile, c'est... quoi. Une pièce montée.
On a rendu une... une montagne de Montecao.
Ça se mange, c'est bon.
C'est tellement bon, si vous saviez. Ce sont des espèces, eux-mêmes ressemblent à des petits monts blancs, cassés, avec une petite pointe de cannelle sur le dessus. C'est sablé, c'est délicieux. C'est une montagne de bons gâteaux. Dans ce qu'on appelle les bons gâteaux, avec une de mes grandes amies, elle, Rafaela Nader, qui est une artiste incroyable aussi, une chanteuse que j'adore et une auteure formidable. Ce qu'on appelle les bons gâteaux, ça peut être des bonnes chansons, ça peut être de grandes balades, ça peut être de magnifiques paysages, ça peut être une virée, ça peut être un souvenir d'enfance, ça peut être un livre bouleversant. C'est tout ça, les bons gâteaux. Et c'est ce que je demande d'ailleurs généralement à des réalisateurs ou réalisatrices avant de commencer un film. Quand on m'attribue un rôle, généralement je leur dis mais si vous avez des bons gâteaux, n'hésitez pas. C'est tout ce qui nous nourrit. Et alors justement cet empire, il est fait de bons gâteaux et il est fait de bons gâteaux plutôt humains du coup.
Du coup vous les mangez pas trop.
Ceux-là on les mange pas trop. On les laisse tranquilles. Mais c'est quand même vachement chouette de se retrouver entre bons gâteaux. Non, l'idée étant quand même une grande bande de copains et de rencontres et d'artistes et de gens dont je crois que la règle est plutôt de ne pas juger. Je pense que c'est un peu la règle première. Et encore une fois, c'est un peu... j'en parlais ce matin et je disais... je fais un grand virage tout de suite. Je parlais de féminisme. Et je disais, mais je comprends pas bien. Aujourd'hui, j'ai fait le choix de parler des femmes, en tout cas. Il y a un hommage aux femmes et il y a une autre qui s'appelle Ignore dans l'album. Et une autre chanson qui s'appelle A Girl Like Me, qui parle de différentes femmes. Alors, c'est plutôt des tableaux comme ça, de flash de femmes que j'ai croisées dans Paris. La première à laquelle je fais référence étant une femme réfugiée syrienne avec son mari et ses gosses qui était voilée d'un drapeau américain. Donc vous imaginez le tableau et c'était des tableaux de femmes auxquels j'étais obligée de faire référence dans cet album-là. Tant la violence du contraste était... j'étais sur mon scooter, j'étais en retard, je n'ai pas pu m'arrêter, mais j'aurais tellement aimé ce jour-là particulièrement dire « non, aujourd'hui il n'y aura rien d'autre que ces gens-là, j'ai envie de parler avec eux toute la journée et de les connaître et de savoir d'où ils viennent et que cette femme-là se retrouve voilée d'un drapeau américain assise devant une bouche de métro parisienne. C'était absolument surréaliste. Enfin, cette présence du féminisme qui pour moi était nécessaire dans cet album parce que je ne comprends pas. J'ai des amis de ma génération. Alors eux, c'est encore un autre degré qui m'amuse beaucoup et que je trouve déjà... plus digeste que celui de gens qui m'expliquent qu'ils ne sont pas féministes, parce que le féminisme n'est rien d'autre que être pour les droits, l'égalité des droits entre les hommes et les femmes. Ça ne veut rien dire d'autre, le féminisme. Donc, quand on m'explique qu'on n'est pas féministe, moi, c'est comme si on me disait qu'on m'expliquait qu'on est raciste, par exemple. C'est aussi grave, c'est aussi dérangeant, c'est aussi inconvenant, déplacé, démodé et pas à sa place.
Alors lequel vous comprenez pas? C'est un autre, d'autres amis, vous les comprenez pas?
Alors d'autres amis, bon, je les comprends un peu, c'est-à-dire que je vois où ils veulent en venir et je trouve ça très touchant et assez délicieux. Même si c'est un discours que je trouve pas... Bon, si tout le monde pensait comme ça, ce serait vachement bien. Mais comme ça n'est pas le cas,
quel suspense.
Il m'explique que en fait, ils ne sont pas féministes parce que pour être féministe, c'est considérer que c'est encore un sujet. Alors moi, j'adore l'idée, mais malheureusement, c'est encore un sujet et partout dans le monde. Donc voilà. Mais tout ça pour dire que je me suis un petit peu perdue. Je ne sais plus. Je suis partie sur le féminisme.
C'est votre faute. Hein. Vous avez dit, je fais une parenthèse. Je vous ai écouté religieusement. Je me suis dit, de sa parenthèse, elle arrivera nécessairement quelque part. Je vous ai laissé faire et vous voilà perdue.
Génération. On parlait de la famille et de l'empire. Exactement. C'est cet empire-là. C'est cet empire-là qui est fait de copains qui vont pas être Charlie parce que Netanyahou est au premier rang de la marche, de copains qui vont me dire qu'ils sont pas féministes parce que pour eux c'est encore un sujet. Enfin voilà, ce sont des débats qu'on peut mener et que je mène avec eux pendant des heures et des heures.
Des empires avec des désaccords. Un empire avec des désaccords.
Exactement. Mais on est tous ensemble, on se juge pas, on parle plein de langues, on fait l'amour avec qui on veut et ça se passe vachement bien.
Moi, j'ai trahi la musique respectable pour la musique concrète. Et le violoncelle de mon enfance pour le magnétophone et pour le potentiomètre. C'est pourquoi je décompte avec tant de dépit le cliquetis des clarinettes, le ronchonnement des contrebasses. Nous autres, dans nos studios, avec nos armes automatiques, multipliant d'un coup de pouce le nombre des exécutants, gonflant le volume des orchestres, nous trichons. Nous sommes des embusqués. Tout ça a commencé fort modestement. Un incident technique, en somme. Souvenez-vous de ce très vieux disque. Eh bien, cet incident technique qui avait été exploité comme artifice poétique pouvait aussi bien devenir, sinon une trouvaille musicale, du moins une approche du sonore, une façon de conserver une tranche de son. Ce qui paraissait un jeu d'enfant devenait un procédé. D'une part, on pouvait prolonger le son grâce aux sillons fermés, puis transposer ces sillons et en faire des successions et des mélanges. C'est ainsi que fut composée l'étude pathétique. Dans l'euphorie de la trouvaille, la frénésie de l'invention, tout était bon pour ces premiers collages. 1, 2, 3, 4, tourne-disque. Si bien l'harmonica, la voix de Sacha Guitry, les chœurs de l'armée rouge, le moteur de la péniche. Et la série complète des harmoniques.
France Culture, par les temps qui courent, Marie Richeux avec Camélia Jordana.
Monsieur le douanier ne veut pas les lâcher comme moi, au loin je me fais montrer du doigt. Les regards oubliés. de langue, trafiquante de rythmique gênante. Cette métique m'est étrangère, trac malheureux chanté en solitaire. Ici ça rit, ça fume, les poésies s'imposent même quand ça parle seul. Ça aime et ça diffuse, si ça pique un farthèse, ça détale. Mes yeux s'allument, mon cœur s'interroge, y'a comme un truc en travers de ma gorge. Je garde un air pour toi, mais ce qu'il y a dans ma tête pour toi, gars, tu sais pas.
On voulait vous faire entendre la voix de Pierre Schaeffer en 1979, Camélia Jordana qui parle de la découverte de la boucle et des premiers bricolages pour que des musiques se répètent, et lui avec un sillon et un vinyle, parce qu'il y a beaucoup de choses dans la production de ce disque qui tournent. Alors à la fois dans le rythme, parfois dans la voix, les harmoniques, les arrangements, mais aussi dans la production. Alors si on met un peu les mains dans le cambouis et dans le moteur, ça s'est passé comment? Quel rapport aux machines par exemple? Quel rapport aux samples? Comment est-ce que vous avez travaillé tout ça?
Ça a été un grand machin.
Après la pile de bons gâteaux, ouais, le grand machin du studio.
Mettons les mains dedans. Alors le grand machin, ça a été qu'on a travaillé pendant à peu près un an et demi sur des... uniquement sur Live, en fait, sur Ableton, qui est un logiciel grâce auquel on peut faire de l'électronique, des samples et tout ça, avec des banques de sons qu'avait justement Everydays, l'artiste qui a fait justement avec qui on a fait ces programmations-là. Pendant un an et demi, je pense, lui avait des banques de sons, il faisait des propositions, me les envoyait.
Une sorte de tapis sonore, quoi, de monde sonore, en gros. Vous composiez des...
Nous, en fait, avec pour les premières chansons qui sont arrivées, celles qu'on avait déjà créées avec Laurent, on avait déjà, voilà, des infos harmoniques, des idées de synthé et tout ça qu'on lui avait envoyées. Donc une espèce de bout de chanson qu'on appelle une maquette. Enfin, une chanson qu'on appelle une maquette. C'est-à-dire pré-produite, sur lequel lui, après, a envoyé plein d'idées, parce que c'est une espèce de magicien fou qui a tellement d'idées tout le temps. Donc il a envoyé plein de pistes avec plein d'idées différentes. Donc avec plein de tapis sonores, d'idées rythmiques, de sons différents. Enfin voilà, une espèce d'énorme sac à matière. Dans lequel, donc après ça, nous, on s'est retrouvés en studio pour faire, disons, plus ou moins notre sélection là-dedans. Et puis après, parfois, on prenait un bout, bien simplement un son qu'on repositionnait avec une autre métrique et tout ça. Donc on recréait ensemble. Suite à quoi, nous nous sommes retrouvés en studio avec mes musiciens, avec qui j'ai l'habitude de travailler depuis mes débuts. Donc Grégory Dargent pour le oud et la guitare, Frédéric Jean pour la batterie, Vincent Tégère aussi avait fait quelques batteries, batteur de Ponyox, Sylvain Daniel pour la basse, et je pense que je n'oublie personne. Et on s'est retrouvés donc en studio, et moi-même je les drivais, et eux proposaient des milliards de choses aussi, parce qu'ils sont très créatifs, très doués et très inventifs. Et donc après ça, moi je me suis retrouvée à nouveau avec une montagne de machins. Là je me suis retrouvée en studio avec Jérôme Poulouin, dit le magicien, dans son studio, dans une espèce de château improbable, nantais, incroyable. Et on s'est retrouvés à faire ce qu'on appelle de l'édit, c'est-à-dire qu'à partir de ce moment-là, on avait des montagnes de pistes Donc des heures et des heures et des heures de musique. Et là-dedans, après ça, on a fait ce qu'on appelle de l'édit. Et donc moi, je lui disais, tel machin, il faut qu'il aille là, il faut qu'il soit à tel volume, il faut qu'il s'arrête à tel endroit, tout cet endroit-là, on va le répéter à la fin. En fait, cette fin-là, il faudrait la mettre au début, on va prendre que les voix, que les chœurs. Enfin voilà, on fait un peu comme du montage en cinéma, mais avec des sons et avec chacune des pistes qui existent. Et on fait ce qu'on appelle un prémix. Le prémix étant plus communément appelé une mise à plat. Une fois qu'on a cette mise à plat là, on refait les voix puisque l'arrangement est différent et que du coup de fait les voix ne vont pas avoir vont pas être chantées de la même façon, etc. Selon l'arrangement sur lequel elles sont faites. Donc après ça, on a refait des voix, on a fait plein de chœurs qu'on a eux-mêmes édités, remixés, blablabla. Et une fois qu'on a eu cette mise à plat avec les voix, on est rentré dans une phase de mix où donc là, chacun a un peu pris sa place et est allé dans sa chambre. Et une fois qu'on a mixé tout ça, on a fait appel à Stuart, qui est une espèce de magicien aussi du mastering.
Que de magicien
autour de ce projet. Et avec ça, du coup, il a masterisé l'album. Donc c'est l'espèce de couche de vernis final après les mix. Et on se retrouve avec un album, en effet, avec plein de matières différentes.
Bon, ça répond à une curiosité très personnelle parce que j'adore entendre parler de ce genre de fabrication, mais je trouve que ça dit aussi à quel point c'est une manière très contemporaine de faire de la musique. C'est-à-dire que quand je dis entendre ce disque pour mille raisons, c'est entendre beaucoup de choses du présent, on entend aussi que c'est des plus ou moins jeunes gens, ou des gens, on va dire, qui font de la musique vraiment avec leur époque, avec leur manière, avec... je sais pas, la manière dont vous venez de décrire un disque, je suis sûre que bon, il y a 30 ans ou 20 ans, ce serait complètement du chinois, ce serait quelqu'un qui vous regarderait en disant, ah bon, mais t'as pas juste fait des prises avec des... Et je trouve que ça, je sais pas, ça me parle de l'époque, quoi.
Ben, j'en suis ravie. C'est vrai que c'était important pour moi qu'il y ait un mélange de, à la fois des machines et donc de quelque chose de très contemporain qui corresponde justement à tout ce qui est raconté dans cet album, à tous les événements qui ont donné naissance à ces chansons qui, elles, peuvent être d'ailleurs plus lumineuses que les événements en question, mais en tout cas qui les ont inspirées. Et à la fois, qui est quelque chose de très organique, étant donné que, comme on disait, l'Afrique fait partie de cet album et il y a quelque chose d'humain, de vivant, de l'ordre de la soul. Il y a beaucoup de voix, il y a quelque chose de très animal aussi. C'est d'ailleurs l'un des titres d'une intro... d'un morceau qui s'appelle Enna, et Enna, c'est un morceau uniquement en arabe qui dit Enna netfarfir rohi, Enna hayawan metrafshmani, Enta metgunch msafaj, Enna hayawan metrafshmani, pardon. Et qui veut dire, en gros, c'est cette détestable façon d'appeler cette façon d'écrire qui est dite donc petit noir, et qui est en fait, qui veut dire moi animal, toi pas avoir peur, animal bon pour toi. Il y a cette idée que voilà, que le côté animal de l'humain est une force et qui est quelque chose qu'on retrouve beaucoup dans les cultures africaines, dans quelque chose de très terrien et de très organique. Et du coup, c'était quelque chose que je voulais vraiment qu'on ressente sur l'album. D'où après toute cette énorme deuxième phase avec donc des musiciens et des vrais gens qui vivent et qui donnent de la vie à cette musique aussi. Les machines peuvent faire quelque chose de vivant, mais c'est vrai que je voulais éviter ce risque que d'avoir une musique peut-être trop contemporaine et trop froide. Peut-être froide, exactement. Je voulais la réchauffer un petit peu, d'où toute cette deuxième phase et donc en effet ce mélange des deux.
No sugar in my coffee.
It make me
me, Lord. It make me me.
I don't
want no sugar in my coffee.
It make me me, Lord. Lord, it make me me.
I got a bull. Doggy with 500 in my backyard.
he rode like thunder.
Open the cloud, oh, open the cloud. When he barked, he rode like thunder.
Open the cloud, Lord, open the cloud.
When you meet my Lord and woman, just bow your head, just bow your head. When you meet my Lord and woman,
we'll bow your head, Lord, we'll bow your head.
I don't want no bald-headed woman. Oh, she to me,
love, oh, she to me.
I don't want
no bald-headed woman.
Oh, she to me, love.
C'est un morceau qui s'appelle Black Woman et qui fait partie des chants qui ont été récoltés entre 1947 et 1959 par Alan Lomax. Ici, c'est toute une série de chants qu'il a appelé les Prisoner Songs et ça fait vraiment partie des choses que j'ai entendues, qu'on a été plusieurs à entendre, notamment Lise Marie Barré, en entendant votre musique, par la scansion du rythme, par les pieds, par les voix qui se multiplient et se répondent. Alors, vous le dites depuis tout à l'heure, Camélia Jordanax, c'est une musique qui, comme ça, innerve votre album, la manière dont vous faites de la musique, et en même temps, en écoutant, vous sembliez complètement découvrir ça, en tout cas ce genre de...
Mais merci, c'est trop bien.
Non, mais j'ai pris
mes petites notes, je vais l'acheter tout de suite en sortant d'ici. Oh, c'est beau.
Non, ça veut dire que c'est quoi alors? Ça veut dire que c'est des musiques qui sont passées par vous, qu'on vous a chantées, comment elles existent dans votre musique si, par exemple, celle-ci, vous ne l'avez pas très directement écoutée?
Alors celle-ci, je sais que je ne l'ai jamais écoutée pour le coup. En revanche, il y a quand même des musiques trad que j'ai pas mal écouté parce que j'ai eu la chance de rencontrer Martina Catella, qui est une ethnomusicologue et prof de chant, qui a son école de chant place de l'école militaire qui s'appelle les Globetrotters. Et qui, en fait, en bonne ethnomusicologue qu'elle est, en fait, a voyagé un peu partout et a utilisé les chants traditionnels, étudié les chants traditionnels un peu partout dans le monde. Et du coup, elle a cette grâce-là que de connaître tous ces chants-là, de les avoir étudiés, de les connaître d'un bout à l'autre et de connaître toutes ces techniques de chant vocal. Donc, ce qui est formidable, c'est qu'en plus de ça, elle les enseigne, qu'elle fait des masterclass extraordinaires avec des gens du monde entier, des chanteurs soufis du Pakistan, des rois du diaphragme sicilien et j'en passe qui viennent faire des espèces de masterclass surréalistes et magnifiques dans son école régulièrement.
Auxquelles
j'ai déjà participé. Et du coup, de par Martina, alors il y a déjà ma double culture qui fait que depuis gamine, j'ai toujours entendu des chants traditionnels d'Afrique du Nord avec ma famille sur lesquels on a toujours dansé, chanté, beaucoup ri. Et donc, c'est la raison pour laquelle généralement, si on met une percue entre les mains, je me débrouille plutôt pas trop mal. Quoique, mais bon, a priori, il y a un truc assez naturel qui se passe et ça se passe plutôt bien. Mais après ça, c'est vrai qu'à la rencontre de Martina, je me suis mise à écouter et de Babix et de Raphaël Lanader et de toute ma bande de copains musiciens avec qui j'ai passé ma vie, arrivant à Paris en tournée et tout ça. Avec toute cette équipe-là, on écoutait énormément de musique trad. Et alors, la musique trad, ça passait de Daniel Waro, chanteur de Maloya extraordinaire, à Cesaria Evora, capverdienne, à voilà. Et moi-même, j'ai fait mes petites recherches. Je suis tombée entre-temps sur les déesses sirènes des mystères des voix bulgares. Et puis, il y a la déesse, alors il y a Umkaltum évidemment, mais la Umkaltum mauritanienne extraordinaire que je conseille au monde entier, qui s'appelle Dimi Mint Abba.
On pense à tout ça en écoutant ce disque. Vraiment.
Ah bah
non, mais vraiment, je peux vous assurer que c'est des messages qu'on s'est envoyés ce matin.
Ah, trop bien. Bah, je suis ravie.
Ça passe, quoi. Ça veut dire
génial.
Que ça passe.
Bah, ça m'a vraiment accompagnée, ça m'a transportée et je me suis dit, mais c'est pourquoi en fait moi je vibre comme ça et ça me parle en dedans et c'est en fait c'est de la musique physique et c'est ça que je voulais faire aussi avec cet album là, c'est que j'adore la chanson française et je sais que j'y reviendrai de toute façon, mais pour cet album là j'avais envie de permettre au public qui écouterait l'album et qui viendrait me voir sur scène d'être dans une écoute physique, c'est-à-dire que moi quand je vais à des concerts que ce soit des concerts de hip-hop ou autre, la musique en tout cas que j'aime écouter c'est de la musique physique qui va me faire danser et je voulais que sur cet album on puisse danser et qu'on puisse pas forcément danser mais qu'en tout cas il y ait un investissement physique naturel qui s'impose un peu à l'auditeur et je trouve que c'est vraiment le cas avec toutes ces musiques trad là qu'on évoque et voilà j'avais besoin que ça fasse partie de cet album là parce que je me dis voilà moi ça s'impose à moi, il n'y a pas de raison que j'en fasse pas profiter les autres.
Et c'est marrant, vous n'êtes pas la première personne de votre génération ou peut-être un peu plus âgée qui se dit place au corps, ça veut pas dire qu'il y a eu une génération de chanteuse en français ou sur le sol français. Non, mais plus cérébrale. Oui. Peut-être plus cérébrale, plus dans la tête, y compris dans la voix, etc. Et là, il y a quelque chose qui demanderait qu'on engage le corps. Puisqu'on parle d'époque, puisqu'on parle de présent, est-ce que vous avez l'impression que ça répond à ça? Que ça répondrait à, ok, bah alors dans ces cas-là, dansons, quoi.
Bah peut-être, marchons, je le souhaite en tout cas. Bougeons. Ouais, je le souhaite. Il y a un engagement, qui est important et je pense que c'est... C'est cette époque-là aussi, en effet, qui impose ça. Moi, je sais que cet engagement-là, qui est pris dans cet album, en tout cas, me concernant, je peux parler que de ma petite fenêtre, elle est de fait, elle est due, elle est même imposée par cette époque, en fait. C'est-à-dire que peut-être qu'en effet, pendant longtemps, je crois qu'il y avait un grand désir d'être ému par la musique, sinon d'être dansé par la musique appelée divertissement, avec tout le respect que j'ai pour ce genre musical-là. Mais voilà, il y avait vraiment deux genres. Bon, alors soit on a envie d'être ému et de s'envoyer des mots d'amour, et ou alors de pleurer parce qu'on sort d'une séparation, quelque chose qui est une chose que j'adore faire par ailleurs.
Sortir voilà. De séparation ou non, être ému
en écoutant de la musique, c'est vachement bien. Mais c'est vrai que peut-être qu'il y a eu une grande époque de la musique qui émeut. Et peut-être qu'aujourd'hui, de par cette époque-là qui impose un engagement, une prise de parole, une mise en action, en fait. Je crois qu'il y a de l'action là qui se réveille.
Et qui n'exclut pas l'émotion.
Et qui n'exclut pas du tout l'émotion, mais qui de fait va avec le corps, je crois. Et encore une fois, je pense que dans toutes les cultures africaines, amérindiennes, asiatiques, le corps, en tout cas, pas forcément occidentale, caucasienne. Je crois que dans toutes ces autres cultures, le corps est une chose qui n'est pas bannie, qui n'est pas secrète, qui n'est pas à cacher, qui n'est pas violente, qui n'est pas voilà, il n'y a pas de, je crois pas qu'il y ait de pudeur forcément à avoir autour du corps. En tout cas, pas autant que dans les cultures plus occidentales.
Contrairement à ce qu'on pourrait croire parfois.
Mais voilà, du coup, je crois que c'est une chose qui existe et étant donné que de plus en plus les cultures du monde autres que occidentales se permettent de prendre la parole dans des mondes occidentaux, du coup je pense que les occidentaux comme les autres se disent mais en fait le corps c'est vachement bien. Allons-y gaiement.
Je voudrais qu'on ait le temps de l'écouter, alors on va en dire quelques mots avant de se quitter, Camila Jordana, de ce morceau qui s'appelle Freddie Gray. Ce sera notre générique de fin et c'est un morceau qui est au milieu de l'album, qui regarde vers les États-Unis, qui regarde vers la violence aussi. Est-ce que vous pouvez en dire quelques mots?
Complètement. C'est une chanson qui a été écrite au tout début du projet Lost, justement. Et peu de temps après, il y a eu la disparition d'Adama Traoré.
Freddie Gray,
Freddie Gray est un jeune homme qui a été mis en garde à vue parce qu'il avait un couteau à ressort apparemment sur lui. Et en fait, il y a des vidéos de ce jeune homme de 25 ans qui est en train de se faire arrêter, qui est blessé, qui ne peut pas bouger et qui du coup a tellement été violenté par la police pour raison d'avoir donc un couteau à ressort sur lui, qui était évidemment noir, qui du coup ne peut même pas se lever pour aller dans la voiture et est transporté par les policiers en se faisant tenir par les dessous de bras. Et quelques jours après son arrestation, il est mort. Donc c'est un énième homme homme noir qui s'est fait tuer, qui est mort suite aux violences policières. Et donc, comme je disais, peu de temps après que j'ai écrit cette chanson-là, il y a eu la disparition d'Adama Traoré en France, il y a eu l'affaire Théo plus tard... Enfin voilà, et j'avais ce grand. Il y a eu aussi évidemment plein de violences pendant des mois au cours de toutes les manifestations qui ont eu lieu, au cours de Nuit debout, à République et tout ça. Et j'ai eu un grand besoin de parler des violences policières, particulièrement celles faites sur les personnes pas blanches. J'avais besoin de rendre hommage à Freddie Gray et j'avais besoin de poser la lumière et un grand point d'interrogation sur cet endroit et sur les violences policières faites sur le peuple, particulièrement sur les personnes de couleur, parce qu'on a beau en parler quand il y a Adama Traoré qui disparaît ou quand il y a Théo à qui il arrive ce qu'il est malheureusement arrivé, j'ai pas le sentiment qu'il se passe grand chose et j'ai toujours des copains qui se font tabasser et d'autres qui subissent des contrôles policiers extrêmement violents et voilà, il n'y a pas grand chose qui change, donc j'avais besoin d'en parler, de mettre un grand point d'interrogation là-dessus, mais voilà, donc je voulais quand même en parler et en profiter pour lui rendre hommage.
C'est une longue introduction pour écouter ce dernier morceau. Merci beaucoup, Camélia Jordana.
Merci.
Vous serez en concert le 17 décembre à la Bellevilloise à Paris. Vous êtes par ailleurs sur les écrans dans un film qui s'appelle Chacun pour tous, signé Vianney Le Basque, et le disque s'appelle Lost. Merci.
Merci à vous.
All day long we will sing and cry. We're gonna walk downtown again. Freddie Gray's soul is lingering on. People are running in my village.
Au son ce soir, c'était Antoine Viossa, la réalisation Lise-Marie Barré. Par les temps qui courent, on se retrouve lundi prochain à 21h. Quand vous voulez, sur franceculture.fr pour réécouter cette émission et vous abonner au podcast de Par les temps qui courent. Un très grand merci à Jeanne Aléos, Romain de Bec de Lièvre, Marianne Chasseur et Lou Quevouvillier qui m'aident à penser et préparer cette émission tous les jours. Je vous souhaite une excellente soirée sur France Culture.